Chapitre 6. 6 mois s'écoulèrent. Il n'était plus question du mandement. L'évêché avait retrouvé son calme et Jules semblait s'amender. L'opinion lui revenait de jour en jour plus favorable. Il avait obtenu un véritable succès en prêchant le mois de Marie avec un très grand charme de paroles, une poésie d'amour mystique voilée de tendresse humaine qui lui avait conquis le cœur des femmes. Une transformation physique s'opérait en lui. Il se soignait davantage, perdait ses habitudes de prêtre bohème, portait des soutanes presque élégantes et des boucles d'argent à ses souliers plus fins. On commençait de le recevoir dans quelques châteaux d'alentour avec plaisir. Sous son apparence rude encore et sous ses gestes toujours cassants, il étonnait par la variété, par l'intérêt délicat et nouveau de ses conversations, coupées parfois d'une hardiesse de mots ou de pensées, et qui n'était pas pour déplaire même aux plus dévotes. Dans le hasard des lectures nombreuses, il avait appris énormément de choses et des plus différentes, et si ses connaissances rapidement acquises n'étaient point classées en son esprit avec méthode, il savait s'en servir adroitement et les mettre sans pédantisme au ton d'une causerie familière. Sa laideur même disparaissait. La maladresse de son corps long, anguleux et dégingandé ne choquait plus autant. Ce qui le rendait autrefois ridicule lui constituait maintenant une sorte d'originalité plutôt agréable et bien faite pour le distinguer de la lourde, de la massive banalité paysanne de ses confrères. Et plus tard, au milieu d'une épidémie de petites véroles qui décima un des faubourgs de la ville, il s'était montré brave et dévoué, prodiguant son temps, les consolations de son ministère aux malades pauvres, ensevelissant les morts. Il avait donné à la population consternée et prise de panique l'exemple d'un bon courage. Ses rapports avec l'évêque étaient aussi devenus excellents, bien que ça et là, troublés de petits nuages vite dissipés. Depuis sa triste aventure, l'évêque avait beaucoup vieilli. Sa santé se faisait plus délicate, ses facultés baissaient. Quoiqu'il ne parlât jamais de cette affreuse histoire, on sentait qu'il en souffrait toujours, que la blessure en demeurait non guérie et saignante. Jules s'ingéniait à lui faire oublier ses mauvais souvenirs en flattant les douces manies du vieillard. Il avait même étudié la culture des géraniums et des pélargoniums afin d'en pouvoir causer avec lui. Tous les deux, ils disputaient sur les poètes latins. L'évêque soutenait Virgile. Jules défendait Lucrèce. « Mais c'est un athée, votre Lucrèce !» s'écriait l'évêque. « Votre Virgile, qui croyait aux divinités carnavalesques de l'Olympe, à cet imbécile de Jupiter, à Junon !»« Mais enfin, il croyait à quelque chose. Que voulez-vous, de son temps, il n'y avait pas d'autre dieu, et puis il n'y avait pas tant que ça. Il avait deviné le christianisme. » « Mais Lucrèce a tout vu, tout senti !» Tout exprimer ce qui est la nature, ce qui est l'âme humaine, et combien magnifiquement, aujourd'hui encore, il nous domine. Tout découle de lui, système et poésie, et plus nous allons, plus son œuvre lumineuse grandit et bouleverse. Sans lui, nous en serions encore à adorer Minerve et son casque, et cette brute de Vulcain. Et puis, Virgile, ses beaux vers, ses beaux rythmes, il les a volés à Lucrèce. Oh, ne dites pas cela, mon cher enfant, protestait le prélat. Virgile est la source, croyez-moi la source unique. C'est à lui qu'il nous faudra revenir, toujours, toujours, toujours. Oh, a-t-il seulement poussé ce cri de souffrance, pacata posse omnia mente tueri. Oh, pouvoir contempler toutes choses d'une âme pacifiée. « Mais sans Lucrèce, monseigneur, Nous n'aurions ni Pascal, ni Victor Hugo. Victor Hugo, mon cher enfant, c'est un monstre. À la suite de ces causeries, l'évêque se sentait très heureux. Et il disait à Jules, « Mon cher abbé, je n'ai que vous, aimez-moi toujours comme ça. » « Oui, oui, monseigneur, je vous ai causé tant de chagrin. Mais non, c'est moi qui suis assis, c'est mon caractère, enfin je n'ai que vous. » Il s'en fallait que l'abbé fût toujours aussi calme qu'il paraissait l'être, et bien que son désir du mal n'eût pas alors de but déterminé, ses mauvais instincts le harcelaient sans cesse, le poussaient à de vagues rechutes, et il était obligé de se livrer contre eux à de rudes combats. Pourtant, quelque chose le soutenait, qui lui avait fait défaut jusqu'ici, un intérêt, une ambition. Que de temps gaspillé à de criminelles et inutiles fantaisies, que de forces perdues dans de stériles caprices où il s'étonnait qu'on n'eût point sombré tout son avenir. Maintenant, il entrevoyait une vie nouvelle qui pouvait être brillante et féconde. Au lieu de traîner éternellement des soutanes graisseuses dans les petits métiers de la basse cléricature, il lui était permis encore d'élever ses rêves plus haut. Il se savait éloquent, et d'une éloquence qui plaisait, car elle allait plus à la sensibilité qu'au raisonnement. Et il savait aussi que, malgré sa disgrâce physique qu'on oubliait devant le charme réel et très vif de ses agréments intellectuels, il ne lui était pas interdit d'espérer des succès dans le monde et d'intéresser les femmes à son ambition. De tout cela, il avait eu la perception très nette le jour où ses prédications lui avaient valu des sympathies non équivoques et changé brusquement son misérable état de paria en une condition enviée de prêtre à la mode. Mais sa nature l'effrayait. Il sentait gronder et bouillonner au fond d'elle des laves terribles, et il en redoutait l'explosion fatale et prochaine. Il subissait tellement l'attraction du mal que souvent, à la minute où il raisonnait avec le plus de clairvoyance sur la folie des inconséquences de son passé, il avait envie de s'y abandonner. Une force invincible l'entraînait, qui lui donnait le vertige de l'abîme. Et il comprenait qu'un jour, il s'y laisserait glisser d'un coup, comme ça, pour rien. Depuis qu'il était en contact plus fréquent avec les femmes, son esprit redevenait l'esclave de la chair. Il échappa d'abord aux tentations par le travail obstiné, par un âpre surmenage du cerveau. Mais le travail, bientôt, ne suffit plus. L'immobilité pesante le condamnait à la défaite. L'amour ne se présentait à lui que sous la forme d'une débauche compliquée et pénible. Des images impures, impossibles à chasser, dansaient devant ses yeux, l'arrachaient au livre, à la pensée, pour le plonger dans une suite de rêves obscènes où il trouvait d'involontaires assouvissements et d'où il sortait hébété, le cœur plein de dégoût. La prière non plus ne le calma point. Agenouillé au pied du crucifix, il voyait peu à peu, comme en un tableau célèbre, le corps du Christ oscillé sur ses clous sanglants, quitter la croix, se pencher, tombée dans le vide et à la place du Dieu disparu, la femme triomphante et toute nue, la prostituée éternelle qui offrait sa bouche, son sexe, tendait tout son corps aux baisers infâmes. Alors, pour étouffer le monstre, il reprit ses courses furieuses à travers la campagne. Il tenta de dompter à force de fatigue physique la révolte charnelle de ses sens déchaînés. Toutes ces luttes intérieures, tous ces drames d'une âme en détresse. Jules, avec une volonté qui ne manquait pas d'héroïsme, les comprima silencieusement au fond de son être moral, et personne autour de lui n'en ressentit le contre-coup. C'est même au plus fort de ses affres, c'est au plus douloureux de ses tentations que, par une ironie pitoyable qui donne à la vertu la nostalgie du vice et au vice la nostalgie de la vertu, il éprouva une intense et presque enivrante joie à chanter en ses sermons l'hymne des voluptés impossédées, l'ineffable douceur de l'amour mystique, de l'amour introublé d'un rêve de la terre pour un rêve du ciel. Tous les ans, on célébrait la fête de l'évêque par des exercices pieux, des réjouissances littéraires et un supplément de chocolat au repas du matin dans les petits et grands séminaires. Après la messe, solennellement chantée en musique, les élèves venaient complimenter Monseigneur, ceux-ci en vers latin, ceux-là en vers français, quelques-uns les plus forts en vers grec, et se livraient ensuite à une joute académique où ils élucidaient un point obscur de l'histoire religieuse ou bien fixaient un dogme attaqué par les philosophes. Et la musique jouait des marches dans l'intervalle des discours. À cette occasion, le prélat donnait un dîner auquel étaient conviées les principales autorités ecclésiastiques, le meilleur élève de chaque classe et quelques amis laïcs. Comme d'habitude, Jules fut chargé d'organiser la fête, laquelle d'ailleurs ne variait jamais. Ce jour-là, il était nerveux, plus agité que de coutume. Il avait eu le matin, à propos de la décoration du maître-autel, une dispute avec le grand vicaire qui l'avait irrité. Cela l'amena à observer que, depuis la réserve de sa conduite et ses succès du mois de Marie, le grand vicaire semblait le prendre de plus haut avec lui, et ne dissimulait plus son hostilité. Cependant, les choses allèrent à merveille. L'évêque subit consciencieusement l'averse des louanges polyglottes et y répondit de son mieux. Au dîner, l'abbé remarqua que le grand vicaire avait à plusieurs reprises, en le regardant de ses yeux obliques, ricané avec son voisin, un gros curé dont le nez trop court disparaissait dans la bouffissure des joues. Sans doute il se moque de moi, cette canaille-là, se dit-il. Ce ricanement l'exaspérait. Du reste, tout autour de lui l'exaspérait. Il éprouvait un insupportable dégoût à se trouver en ce milieu qui ne lui avait jamais paru aussi répugnant. Ces lourdes et vulgaires faces de prêtres aperçu entre la rangée des candélabres et des corbeilles de fleurs, les contentements hideux de ses ventres, ses profils maigres des séminaristes déjà vernis de fiel, balançant sur de longs coups d'oiseaux des airs candides que démentaient des mâchoires de carnassiers et des yeux fuyants de bêtes de proie, ce que cela dégageait pour Jules de gaieté grossière, de cynique insouciance, d'égoïsme féroce, d'appétit vil, d'ignorance abjecte et de basse intellectualité. Ces deux curés près de lui, qui se contaient à voix basse en retenant leur rire baveux de sauce, de puantes histoires scatologiques, tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il entendait le mettait hors de lui. Et il avait des envies furieuses de se lever, de lancer sa soutane à la tête de tous ces gens. L'usage voulait qu'au dessert, le grand vicaire, parlant au nom des diocésains, adressa une petite allocution à l'évêque. Il était sentimental et prétentieux, ne ménageait pas l'éloge et savait pleurer aux endroits convenables. Le moment venu, il quitta sa chaise, se tamponna les lèvres avec son mouchoir, toussa trois fois, ainsi qu'il faut faire, et les convives attentifs tournèrent vers lui le regard luisant. Il commença dans un silence auguste. Monseigneur, dans ce jour béni entre tous, où les enfants de la Sainte Église catholique, apostolique et romaine, ces enfants que vous guidez avec une si paternelle sollicitude, avec un dévouement si admirable dans les voies sacrées de la religion, dont Bossuet a pu dire... Mais il fut soudainement interrompu. L'abbé s'était dressé debout, le corps penché au-dessus de la table, étendant son poing vers le grand vicaire. « Taisez-vous ! » cria-t-il. « Pourquoi parlez-vous ? De quel droit ? Au nom de qui ?» Le grand vicaire resta pétrifié dans la pose qu'il avait prise et dans le geste commencé. L'évêque, très pâle, s'affaissa sur son siège. Un des assistants, s'étant violemment retourné, fit choir une bouteille de vin qui se brisa sur le parquet. Et tous tordaient leurs mentons grimaçants vers l'abbé, qui d'une voix vibrante répéta « Taisez-vous, que parlez-vous de religion, d'église ? Vous n'êtes rien, 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 vous êtes le mensonge, la convoitise, la haine, et taisez-vous, vous mentez !» Au milieu d'un silence profond que ne troublait pas un souffle, de ce silence de mort qui succède au cataclysme, l'abbé continua. « Vous mentez tous. Depuis une heure, je vous regarde. Et à le voir porté par vous, je rougis de l'habit que je porte, moi qui suis un prêtre infâme, qui est volé et qui vaut mieux que vous, pourtant. Oh, je vous connais, les prêtres indignes, réfractaires au devoir social. » Déserteur de la patrie, qui n'êtes ici que parce que vous vous sentiez trop bête ou trop lâche pour être des hommes, pour accepter les sacrifices de la vie des petits. Et c'est vous, à qui les âmes sont confiées, qui devez les pétrir, les façonner, vous dont les mains sont encore mal essuyées de l'ordure de vos étables, des hommes. Des hommes de femmes, des hommes d'enfants, à vous qui n'avez jamais conduit que les cochons. Et c'est vous qui représentez le christianisme avec vos mufles de bêtes à l'engrais, vous qui ne pouvez rien comprendre à son œuvre sublime de rédemption humaine ni à sa grande mission d'amour. Cela fait rire et cela fait pleurer aussi. Une âme naît et c'est 10 francs. Une âme meurt, et c'est 10 francs encore. Et le Christ n'est mort que pour vous permettre, n'est-ce pas, de creuser la fente d'une tirelire dans le mystère de son tabernacle et de changer le ciboire en séville de mendiant. Mais quand je vous entends parler de la Vierge, il me semble que j'assiste au viol d'une jeune fille par un bouc. Oh, le sourd de l'humeur s'enflant peu à peu, devenus bientôt des cris de colère, des protestations furieuses, des vociférations indignées couvrirent sa voix. Beaucoup étaient debout, la face congestionnée, qui brandissaient en l'air des serviettes, des couteaux, et gesticulaient tumultueusement. Par-delà la clameur grandissante, on entendait des bruits clairs d'argenterie, de vaisselle remuée, le parquet craquait, et sur les murs ébranlés, les faïences résonnaient, secouées au bout de leurs attaches. Jules se débattait, écumait, hurlait dans le vacarme, en projetant l'un après l'autre d'un mouvement alternatif ses deux poings crispés. « Allez-vous-en, retournez au purin, au crottin, je vous chasse, je vous chasse !» Alors l'évêque, plus pâle qu'un cadavre, fit signe qu'il voulait parler. Et le silence se rétablit instantanément. Ses lèvres tremblaient exsangues, il claquait des dents, et d'une voix si faible qu'à peine on l'entendit, d'une voix entrecoupée d'efforts douloureux comme celle d'un agonisant, il dit « Monsieur l'abbé, c'est moi qui vous chasse, vous avez… »« Vous ?» cria Jules, dans les yeux duquel passa la fureur d'une folie sanglante. « Vous ?» Il faisait le geste de rudoyer un personnage imaginaire. Vous, vous n'avez pas le droit, vous, vous avez volé le testament, une mitre à vous, ce qu'il vous faut, le savez-vous, 4 pieds de chêne et un boulet. L'évêque poussa un cri, ouvrit la bouche et, battant l'air de ses mains glacées, il retomba sur son siège, la tête roulante, les bras inertes, évanoui. Le lendemain, à pointe d'aube, Jules sortit. Il avait préparé ses malles et comptait partir le soir même. Mais où? Il n'en savait rien. Dans le malheur, c'est vers la maison paternelle que vont les premiers regards de celui qui cherche à être consolé. Mais Jules n'aimait point son pays. Aucun doux souvenir ne l'y attachait, aucune joie de jeunesse. L'idée de retourner à Villantais lui était insupportable. Il faudrait y donner des explications, subir des reproches, ne voir que des visages tristes ou courroucés, n'entendre que des soupirs et des lamentations. Oh, cela ne le tentait point. Il eût désiré se cacher quelque part, très loin, dans un endroit où personne ne l'aurait connu. Paris aussi l'attirait. Par son mystère, par toutes les espérances vagues de crimes ou de relèvements qu'il souffle aux obscurs déclassés. Il n'avait point d'argent. Et d'ailleurs, qui ferait-il? Enfin, il verrait, il réfléchirait. En attendant d'avoir pris une résolution, il ne voulait pas rester à la chevêchée dans la crainte d'y rencontrer Monseigneur ou quelque autre témoin de sa stupide aventure. Et il allait, préoccupé, mal à l'aise, incertain, chassant devant lui des cailloux du bout de ses souliers. Comme il se trouvait sur la route du Raynaud, la pensée lui vint de passer cette journée avec le père Pamphile. De sa visite ancienne, il lui était resté un grand remords, une grande impression, et bien des fois, il s'était promis de revoir ce démon sublime et de se réconcilier avec lui. Même une folie lui traversa la cervelle. Pourquoi ne vivrait-il pas au Raynaud? Ne s'arrangerait-il pas avec le vieux trinitaire? Il creuserait des trous, remuerait des arbres, quêterait. Non, non, c'était absurde. Se défroquer? Quelle misère! La tare en demeurait ineffaçable sur les épaules de l'homme habitué à porter la soutane. Du mépris, de la suspicion, voilà ce qu'il attendrait partout. Alors il chercha. Un poste sacrifié dans une mission lointaine. Mais voudrait-on de lui seulement? Le couvent, oh, on n'y recevrait point. Il chercha encore, ne trouva rien, se sentit perdu, et il eut peur. Inquiet comme une bête que les chiens poursuivent, il marchait le dos courbé, l'oreille aux écoutes, la mort dans l'âme. Le matin, vêtu d'azur limpide, souriait dans les arbres réveillés, et des vapeurs parfumées montaient de la terre, toutes frissonnantes sous les baisers du jeune soleil. À quelques pas de l'avenue, Jules rencontra une vieille femme, celle qu'il avait vue déjà portant au moine sa bolée de soupe. Comme autrefois, il lui demanda « Le père Pamphile est-il au couvent ?»« Ben, v'là quasiment plus de 15 jours la nuit que je l'ai vu, monsieur le curé, » répondit la vieille. « Un jour, il était collé, et puis le lendemain, il n'y était plus. »« Ah ?»« Ben, il se traîne bien sûr réparti en quelque pays. Il est sûr enragé. » Ce départ causa à Jules une véritable déception. Il hésita pour savoir s'il devait poursuivre son chemin ou revenir en arrière. « Bon, se dit-il, passer ma journée là ou bien ailleurs ?» Et il s'engagea dans les ronciers de l'avenue. Longtemps, il erra à travers les ruines. L'hiver qui venait de s'écouler avait été rude au pauvre Reynaud. Les dégels et les tempêtes y avaient accumulé de nouveaux et nombreux dégâts. L'abbé revit ce qu'il avait vu jadis, tout cela un peu plus affaissé, tout cela un peu plus tombé, tout cela un peu plus désolé. Et la vue de ces édifices découronnés, de ces murailles penchées et branlantes, de ces choses dévastées, mortes et parses dans le chaos des successifs écroulements et des continuelles chutes, lui fut d'une tristesse amère et poignante. Il retrouvait, en tout cela qui était à jamais détruit, l'image de son propre cœur, le symbole de sa propre vie. Il revit le trou qu'avait creusé le père Pamphile et qu'un glissement du terrain comblait presque aujourd'hui. Un autre, plus loin, s'ouvrait de la longueur d'un homme, étroit et profond, comme une fosse de cimetière. Et il pensa qu'il ferait bon s'allonger là, se recouvrir de nuit et dormir. La pioche était piquée dans le sol au bord du trou, la pioche illusoire et grossier instrument des rêves du moine. Jules la souleva, la pesa, la regarda avec attendrissement. Le fer en était ébranché, le manche tordu, et pourtant elle lui parut plus resplendissante que l'épée des conquérants, cette misérable pioche qui jamais n'avait fouillé que des nuées. Et longtemps encore, il marcha, au milieu de cette désolation infinie, en proie à des rêves funèbres, qui achevèrent de navrer son âme. Tout lui parlait de la mort. Il la voyait s'accroupir derrière chaque bloc de pierre, s'embusquer derrière chaque crevasse, plongé dans l'ombre des fenêtres béantes ainsi que des abîmes. Et sur les vieux murs, encore debout, les lichens et les mousses dessinaient sa forme d'effrayant squelette. Pour échapper à l'obsession, il évoquait la barbe du Trinitaire, ses yeux si terriblement beaux quand il s'écriait « Mais je la bâtirai !» si doucement naïf, quand il contait l'histoire de la Marseillaise. « La Marseillaise !» se disait Jules avec pitié. « Pauvre vieux bonhomme !» Il regrettait qu'il ne fût point là en cette si mélancolique journée. Assis à côté de lui, il eût partagé son pain noir, écouté ses enthousiasmes, et cela lui eût fait du bien. Mais le vieillard rôdait sur quelque route lointaine, sans doute, à la poursuite de sa chimère. Comme il se sentait la tête lourde, l'estomac brisé, que ses membres là réclamaient un peu de repos, il s'assit sur une poutre abattue non loin du pavillon qu'habitait le père Pamphile, et il continua de rêver. En face de lui était un tas de gravats éboulés récemment, car les fragments de briques qui les parsemaient montraient à leur cassure un rouge plus vif et brillant. Des solives écrasées, des planches rompues, dardaient entre les moellons, les briques et les pierres, de longues pointes échardées. Jules ne prêta d'abord à ces débris d'autre attention que celle, très attristée d'ailleurs, qu'il accordait à tous les débris de ce genre, dont les cours du couvent étaient pleines. Et malgré ses désirs de mort, jugeant l'endroit dangereux, il allait chercher un refuge loin des bâtiments. Mais bientôt, il remarqua, dépassant les gravats d'une vingtaine de centimètres, un sabot. Et ce sabot se dressait en l'air, immobile au bout d'une chose ronde, noire, gonflée, luisante d'exsudation verdâtre. Autour du sabot voletaient des mouches, des myriades de mouches, dont le ronflement sonore emplit les oreilles de l'abbé d'un bruit d'orgue monotone et prolongé. En même temps, une puanteur lui arriva aux narines, la puanteur âcre et fade qui s'exhale des chairs corrompues et des bêtes crevées. « Ah ! Ben c'est le père Pamphile ! » s'écria-t-il. Et se relevant d'un bond, il appela comme si quelqu'un pouvait l'entendre en cette solitude morne. « au secours, par ici, au secours !» Puis il se tut, très découragé. Du reste, aucune voix ne répondit au cri de détresse, et le silence se fit. La première surprise de l'horreur passée, l'abbé réfléchit que le secours qu'il demandait était bien inutile. Le malheur datait de 15 jours au moins, du jour où on n'avait pas revu le vieux moine qu'on croyait reparti et qui était mort, tué par ses ruines aimées. Tout frissonnant, il s'approcha de l'amoncellement des pierres, les yeux fascinés par le sabot au-dessus duquel les mouches bourdonnaient, et dont la rigidité lui glaçait le cœur d'une intraduisible épouvante. C'était bien le père Pamphile. Dans l'interstice des gravats, Jules avait aperçu des pans de robe blanche maculés de sang noir. « Allons, pensa-t-il, c'est Dieu qui m'a conduit ici. Un autre l'eût sans doute découvert. Des gens de justice, des gens d'église, ravisseurs de cadavres, seraient venus le prendre. » Et, parlant tout haut, il dit « Sois tranquille, pauvre vieille carcasse, aucun ne t'arrachera à la paix de ces lieux que tu chérissais. Tu dormiras dans ton rêve, doux rêveur. Tu dormiras dans cette chapelle que tu voulais si impossiblement magnifique et dont tu auras pu faire au moins la sépulture. Et personne ne saura plus rien de toi. Jamais, jamais, charogne sublime. » Résolument, il retroussa ses manches, se pencha au-dessus des décombres, et il commença de les déblayer. Les mouches autour de lui tourbillonnaient. L'odeur de pourriture montait à chaque minute plus suffocante. Mais l'abbé ne voyait pas les mouches aux piqûres mortelles. Il ne sentait plus l'infecte odeur. Pas un instant, il n'interrompit la funèbre besogne. Il arrachait parfois des lambeaux de peau écharnés qui s'agglutinaient aux éclats de bois, se poissaient aux morceaux de briques. Parfois, il retirait des bouts de drap sanguinolents, des poignées de barbe et des tronçons de muscles filamenteux et décomposés. Enfin, ce qui avait été le père Pamphile apparut. Restes horribles, où ne se reconnaissait même plus la place des membres ni la forme du squelette, amas de chair, d'os, d'eftoff broyé pêle-mêle, bougluante de salis jaune et de sang noirâtre, boumouvante que les millions de vers gonflaient d'une monstrueuse vie. De la face écrasée entre un quartier du crâne et la bosse d'une pommette, il ne demeurait d'intact que la ronde cavité de l'œil dont la prunelle liquéfiée coulait en purulentes larmes. Alors Jules s'arrêta, indécis, la sueur au front. 100 mètres le séparaient du trou près de l'église, du trou qu'il avait choisi pour inhumer le père Pamphile. Il ne pouvait transporter dans ses bras ses restes mous et désagrégés. Son courage n'allait pas jusqu'à serrer contre sa poitrine ces immondes débris d'un homme. Il chercha une brouette, un panier, quelque chose qui l'aida à véhiculer le cadavre vers la fosse. N'en trouvant pas, il dénoua sa ceinture, l'enroula autour du corps comme les bandelettes d'une momie. Ainsi maintenu, il se mit à le traîner doucement, évitant avec précaution les heurts trop durs et les brusques ressauts sur les inégalités du terrain. Les mouches le poursuivaient de leur vol assourdissant, et le sabot au haut de la jambe raidie vibrait. La cérémonie ne fut pas longue. Jules descendit le cadavre dans la fosse qu'il combla de terre jusqu'au niveau du sol. Quand ce fut fini, « Oh, je te devais bien cela, dit-il, doux conquérant d'étoiles, naïf tisseur de fumée, dors et rêve. Maintenant le rêve est sans fin, aucun ne t'en réveillera. Tu es heureux. » Il prit la pioche qu'il orna d'une couronne de ronces, et l'enfonçant par le manche au milieu de la tombe, il la planta debout comme une croix. Puis il se laissa glisser à terre presque défaillant. Mais une révolte soudaine le fit bientôt se relever, la bouche crispée, le regard mauvais. Et tandis que son regard allait du carré de terre au fond duquel gisait le père Pamphile, à l'emplacement de l'église parsemé de ronces et couvert de poussière, il songea. Ah si, c'est donc ça l'idéal? L'amour, le sacrifice, la souffrance, Dieu, tout ce vers quoi nous tendons les bras, tout ce vers quoi s'élancent nos âmes, c'est ça? Un peu de poussière, de la boue et des ronces? Et c'est avec ça qu'on nous abrutit de la petite enfance, qu'on nous arrache à la vie de vérité qui est la haine et la lutte sans merci, qu'on nous fait la proie du rêve féroce et de l'insatiable amour. Ce misérable moine, il a eu le rêve, il a eu l'amour. Et l'amour et le rêve, après l'avoir dégradé, avili, sali de toutes les hontes, le tue ignoblement. Le voilà maintenant, une charogne puante dans un tas de boue. Sur quelle déformation de la nature reposent donc les religions et les sociétés, ces mensonges? De quelle fiction sont donc sortis le juge et le prêtre, ces deux monstruosités morales, le juge qui veut imposer à la nature on ne sait quelle irréelle justice démentie par la fatalité des instincts, et le prêtre, on ne sait quelle pitié baroque devant la loi éternelle du meurtre. La nature, mais ce n'est pas de rêver, c'est de vivre. Et la vie, ce n'est pas d'aimer, c'est de prendre. L'idéal. Ils avaient raison, ces gros porcs que j'insultais hier. Et moi, j'avais tort. L'abbé haussa les épaules. Ah, l'idéal! L'idéal, reprit-il tout, attends, attends, je vais t'en donner de l'idéal. Il reboutonna ses manches, secoua sa soutane, et sifflant l'air d'une chanson obscène de sa jeunesse, il partit, sans donner un dernier regard au petit coin de terre où il venait pieusement d'ensevelir le père Pamphile. Jules ne voulut point rentrer dans la ville avant la fin du jour. Il s'imaginait que tout le monde connaissait le scandale de la veille, le commentait, et il lui déplaisait s'offrir aux curiosités cancanières qui ne manqueraient point d'accompagner son passage dans les rues. Attendant impatiemment la tombée de la nuit, il rôda dans les chemins d'alentour, descendit jusqu'à la rivière, et, tout vague, un peu hébété, il resta longtemps sous un saule, à regarder tourner la roue d'un moulin à temps. La faim, les incertitudes, l'angoisse d'un avenir très sombre avaient ramené son esprit vers des spéculations moins philosophiques et plus terre-à-terre. D'abord, il remit au lendemain le départ qu'il avait avec trop de précipitation fixé au soir même. Quoi qu'il pût advenir de lui plus tard, il ne pouvait quitter l'évêché sans prendre congé de l'évêque, sans manifester un regret, un repentir. Mais où irait-il? En admettant que sa faute pût s'oublier quelques jours, il prévoyait de longs mois, des années peut-être, à passer en état de pénitence, éloigné de toute fonction. De plus, il était bien décidé à refuser un exil possible dans la vicairie d'un petit village. Et ce mot de vicairie, lui rappelant le grand vicaire, il sentit la haine lui mordre le cœur. « C'est à cette canaille-là que je dois tout ce qui m'arrive, » se dit-il. « Il m'a agacé, alors je me suis encore emballé. Canaille, canaille. » En ce moment, il en voulait plus à la société, à la religion, à l'idéal, ni à personne. Il n'en voulait qu'au grand vicaire, cause de son malheur. Et il rêva de vengeance terrible, raffinée. Les impressions les plus différentes naissaient, se succédaient, allaient d'un pôle de sa sensibilité à l'autre, se heurtant. Il pensait à ses sermons du mois de Marie, à l'accueil flatteur qu'il recevait dans le monde. Il se rappelait la foule charmée, domptée par sa parole. Puis une question se dressait, grosse de perplexité. Non, pas à Villantin, non, mais où? Nulle part, je n'ai d'amis. À se savoir si seul, son cœur s'enflait, trop plein de tristesse. Et il revenait au grand vicaire, il l'injuriait. Canaille, oh la sale canaille! Brusquement, avec un soupir, ah, ce pauvre bourreau l'évêque, eh bien, il va être heureux avec une sale canaille comme ça. Presque content. Est-ce curieux que je ne puisse rien dire ni rien faire sans qu'une catastrophe ne s'en suive? C'est vrai, pourtant. Je souffle dans un chalumeau et c'est les trompettes de Jéricho qui résonnent. Je n'ai qu'à cracher dans cette rivière et je suis sûr qu'elle va déborder. De l'endroit où il était placé, par une échappée entre les peupliers de la vallée, il aperçut un coin de la ville, des maisons grimpant les unes sur les autres, un fouillis d'ombre bleue, de taches claires, barré de fumée rousse, enveloppé de la brume légère du soir qui commençait. Il chercha des yeux le palais épiscopal, la terrasse où il ne rôderait plus aux heures du crépuscule. Un énorme bouquet d'aunes les masquait. Mais la tour de la cathédrale dominait la ville, plantait dans le ciel couleur de pâle violette sa masse carrée toute sombre. cette vision du pays qu'il allait quitter, chassé comme un mauvais serviteur, l'attendrit et le révolta tout ensemble. Moitié pleurant, moitié bougonnant, il abandonna son saule. Viante, viante, pensait-il, mais j'y crèverai d'ennui, c'est impossible. Mais où? Tandis qu'il remontait vers la ville, le jour décrut, la nuit tomba. Évitant les rues trop larges et trop éclairées, il s'engagea par les venelles tortueuses d'un sale faubourg. Des murs noirs faisant coude brusquement, des chaussées étroites coupées dans leur longueur par un ruisseau charriant des ordures, où de place en place stagnait le reflet d'un réverbère. À mesure qu'il avançait, Jules était de plus en plus angoissé, incertain s'il devait poursuivre sa route ou bien s'enfuir. Il songeait « Revoir l'évêque, ça va être encore des embêtements. » Des ouvriers rentraient avec des bruits lourds de sabots. Des femmes le frôlaient de leurs jupes. Peu à peu, les murs se trouaient de lumière. Et tout à coup, à sa gauche, au-dessus d'une porte mi-ouverte, une lanterne portant sur ses verres dépolis un énorme 8 s'alluma. Et dans l'ombre de la porte, il vit une femme grosse, dépeignée, en camisole blanche. Il ralentit sa marche et se dit « Oh, si j'entrais, si je passais la nuit là, et si demain, en plein jour, devant tous, je ressortais de ce bougignoble, si je creusais d'un coup cet abîme entre ma vie d'hier et ma vie de demain, si... » Un pst parti de la porte lui cingla les reins comme d'un coup de fouet. Il tressaillit et courbant le dos, il passa. « Monseigneur a fait demander monsieur l'abbé toute la journée, » dit le portier d'un air digne, lorsque Jules pénétra dans la cour de l'évêché. « Monseigneur attend monsieur l'abbé dans son cabinet. Je suis chargé de dire à monsieur l'abbé... »«
C'est bien, » interrompit Jules d'un ton bref.
Il gagna sa chambre, se trempa la figure dans l'eau, changea de soutane et se présenta chez l'évêque. Celui-ci, en effet, l'attendait.
« J'ai craint que vous ne fussiez parti, » dit-il, et désignant un siège. « Asseyez-vous là, monsieur l'abbé. » Le vieux prélat n'était ni solennel ni colère. Il semblait plutôt embarrassé. Après s'être retourné plusieurs fois sur son siège, il prononça d'une voix douce.
« Monsieur l'abbé, je ne veux pas de scandale dans mon diocèse. Je n'en veux pas. Et on m'a promis qu'il n'y en aurait pas. On me l'a promis formellement. De votre côté... »
Il croisa ses bras sur les accoudoirs du fauteuil et branla la tête.
« De votre côté, » reprit-il, « vous comprendrez que vous ne devez point que... « Que vous ne pouvez point rester ici après l'événement. »«
Monseigneur, » balbutia Jules, profondément remué,
oh, « ça a été un moment de folie, de... »
Il cherchait ses mots et ne les trouvait pas. Devant ce pauvre vieux bonhomme si faible, si incapable de se défendre, si lâchement et tant de fois martyrisé par lui, Jules éprouvait une indéfinissable sensation de stupeur, de remords aigus et d'accablante pitié. L'évêque lui faisait l'effet d'un tout petit oiseau, d'un tout petit roitelet qui serait venu confiant se poser sur son épaule et qui l'aurait pris dans ses mains et qui l'aurait lentement étouffé.
L'évêque poursuivit avec effort. Nous avons une cure vacante, la cure de Randonnet. C'est une bonne cure. J'ai pensé à vous la réserver, car je ne veux pas de scandale. Il y aura peut-être des difficultés, mais je m'arrangerai. Retournez chez votre mère. Je lui ai écrit que vous aviez besoin de repos. Elle vous attend. Faites une pieuse retraite. Et priez, priez beaucoup, monsieur l'abbé. Priez énormément.
Jules défaillait sous l'émotion. Il aurait voulu exprimer ce qu'il ressentait d'infiniment doux et d'infiniment cruel aussi. Il ne le pouvait pas. Quelque chose d'inconnu encore paralysait son cerveau, son cœur, sa langue. Et devenu stupide, il continuait de bégayer. « Oh, monseigneur, ça a été un moment de folie, de folie !»
Moi aussi, je prierai pour vous, monsieur l'abbé, fit l'évêque dont la voix s'altéra. Et se levant, adieu, remontez dans votre chambre. J'ai donné l'ordre qu'on vous y serve à dîner.
Le soir, dans son lit, Jules, qui ne pouvait s'endormir, songeait en pensant au père Pamphile et à l'évêque.
Sont-ce des saints? Sont-ce des imbéciles? Comment se peut-il qu'il y ait des âmes comme ça? Cela m'épouvante.
2 mois après, Jules était nommé curé de Randonnet. Il arriva un samedi matin très maussade, juste à temps pour enterrer le notaire du pays. L'enterrement fut magnifique et de première classe. Cela dérida un peu le nouveau curé qui, en balançant l'aspergeoir autour du catafalque, se dit « Oh, ben je débute bien, pourvu que cela continue !» L'église lui parut misérable, triste et sombre, avec sa voûte basse écrasée et ses massifs piliers qui supportaient des arcs d'un destin vulgaire. « Oh, une vraie caverne » pensa-t-il. « Le bon Dieu doit joliment s'embêter là-dedans. » Puis il examina les prêtres venus des paroisses voisines pour assister à la cérémonie, lesquels l'examinaient aussi d'un coup d'œil furtif, sournoisement glissé derrière le psautier. Et il pensa, en réprimant une grimace et en couvrant d'encens et de prières le défunt, « Oh, c'est avec ça qu'il faudrait que je vive. Ça va être gai. Mais où donc ai-je vu toutes ces vilaines faces ?» Il en remarqua un aux cheveux luisants de pommade, dont la figure grassouillée des traits roses lui semblait particulièrement connue. « Parbleu, se rappela-t-il, je crois bien, c'est le lapin du séminaire. » Au cimetière, tandis qu'il chantonnait des versets latins, il aperçut près de la fosse une botte de paille. S'interrompant tout à coup, « Qu'est-ce cela ? » demanda-t-il derrière lui à un gros chantre à face bourgeonnée d'ivrogne et qui puait le vin. Et le chantre, d'une voix grasse, « C'est de la paille, monsieur le curé. Ben, je vois bien que c'est de la paille. Et pourquoi cette paille ?»« Ben, c'est censément par égard pour les parents. On la met sur le cercueil et... ça fait que ça empêche le bruit de la terre qui tombe dessus. Enlevez cette paille, commanda le curé. Je ne veux pas de cette paille ici. Mais toutes les familles en veulent, monsieur le curé, c'est l'habitude. On en changera. Enlevez cette paille, je vous dis. Et vous, je vous engage à ne vous saouler dorénavant qu'après les offices.
Il reprit les versets latins, sans faire attention aux chuchotements, aux murmures qui s'éparpillèrent dans la foule. Le lendemain, à la première messe, montant en chaire, il s'expliqua ainsi devant ses paroissiens. « Mes frères, en arrivant hier parmi vous, j'ai constaté avec tristesse que vous aviez des habitudes déplorables auxquelles je vous prie et je vous ordonne au besoin de renoncer, car je vous avertis que je ne les tolérerai pas. Que signifie cette paille étalée sur les cercueils? La mort est un mystère auguste que je veux qu'on respecte par-dessus tous les autres. Est-ce donc la respecter que de lui donner une honteuse litière comme à nos bestiaux? On me dit que c'est par égard pour les vivants et pour leur épargner le bruit que font les pelletées de terre jetées sur les blanches nues des cercueils. Lâche cœur, qui ne savait même pas pleurer et qui repoussait la souffrance que Dieu vous donne. Eh bien, moi, je veux qu'on ait de l'égard pour les morts. Je veux qu'un étranger qui assisterait par hasard à des obsèques dans ma paroisse ne puisse pas se dire en voyant apporter de la paille sur les fosses « Quel est donc le cochon qu'on va griller là ?» Puis, se signant d'un geste large et bredouillant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, il commença de réciter le prône et paraphrasa l'évangile du jour. Longtemps dans le pays de Randonnée, on parla de ce début oratoire du nouveau curé qui fit une profonde impression sur les âmes. Le presbytère était situé à l'extrémité du bourg, protégé contre l'espionnage des habitations voisines par une épaisse charmille et quelques hauts sapins. Il n'avait devant lui que l'espace libre des champs vallonnés. Il plut à Jules à cause de son isolement et de son silence. La maison était propre, gaie, nouvellement recrépie à blanc avec des volets verts et un petit perron à double escalier que décorait la fantaisie luxuriante des glycines emmêlées. Le perron descendait au jardin très vaste, bien percé d'allées sablées qui toutes aboutissaient autour d'une sorte de rond-point occupé en son milieu par une statue de la Vierge, à l'abri sous un laurier sauce. Un courtil planté de pommiers attenait au jardin. Rien ne manquait pour rendre le séjour agréable, ni les communs bien aménagés, ni la basse-cour parfaitement disposée pour l'élève des volailles et des lapins. Jules n'avait pas non plus à subir de côte à côte, souvent gênant avec son vicaire. Celui-ci habitait un petit pavillon à l'entrée des communs et, très discret, ne se montrait qu'aux heures des repas. Pourtant, ses visites terminées, il s'ennuya. Partout où il avait été présenté, il avait reçu un très froid accueil qu'il attribua à la fameuse aventure de l'évêché, sans réfléchir que son premier sermon suffisait à justifier l'attitude gourmée de ses paroissiens. Il ne s'en émut pas, d'ailleurs. Ben, chez eux, moi, chez moi, j'aime mieux ça. Et ce fut tout. Loin de trouver un apaisement en cette calme retraite, où nul bruit n'arrivait, ses nerfs se tendirent plus encore, au point qu'à la maladie morale va s'ajouter une réelle souffrance physique. Il ne dormait plus. Une exaspération de tous ses membres le jetait hors du lit, et il passait ses nuits à marcher dans sa chambre, le cœur gonflé d'il ne savait quelle noire tristesse. Cela inquiéta vivement sa mère.
Madame d'Hervel était venue à Randonnet pour y installer son fils. Elle avait mis à l'arrangement du presbytère toute son adresse de maîtresse de maison économe et délicate, soigneuse des plus menus détails, toute sa piété de mère tendre. Elle-même avait choisi la cuisinière, ni trop vieille, ni trop jeune, le jardinier pouvant servir à toute besogne. Elle avait réglé les dépenses journalières, donné aux gens et aux choses la direction d'une ménagère accomplie. Un soir, après le dîner, la table desservie, Madame d'Hervel tricotait. Jules, le front soucieux, rêvait. Depuis que le vicaire était parti, tous deux n'avaient pas échangé une parole. « Eh bien, mon enfant,
quoi ?
À quoi penses-tu ?
À rien.
Serais-tu plus sage, plus tranquille maintenant ?
Oui, maman. »
Et Jules se leva, marcha dans la salle, fébrile, nerveux, déplaçant les chaises.
Tu dis oui, soupira Madame d'Hervel d'un ton qui ne me rassure guère, mon pauvre Jules. Et puis je te vois toujours agité, préoccupé. On ne peut pas te dire un mot sans qu'aussitôt tu ne partes. Mais souffres-tu ?
Non.
Alors, qu'est-ce que tu as ?
Mais rien.
Et tout d'un coup, s'arrêtant de marcher, il s'écria.
« Mais c'est vrai aussi, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ce pays perdu, au milieu de tous ces imbéciles ? Est-ce que j'ai une position pour moi ? Non, là, franchement, est-ce une position ?»
Madame d'Hervel laissa tomber son tricot sur ses genoux, découragée.
« Mais comment ? Mais tu as une cure excellente, ton presbytère est charmant. » Tu peux y vivre le plus heureux des hommes. Mais qu'est-ce qu'il te faut, grand Dieu ?
Jules recommença de marcher, frappant du pied.
Ce qu'il me faut, le sais-je. Autre chose, voilà tout. Je sens qu'il y a en moi des choses refoulées et qui m'étouffent et qui ne peuvent sortir dans l'absurde existence de curé de village. À laquelle je suis éternellement condamné. Enfin, j'ai un cerveau, j'ai un cœur, j'ai des pensées, des aspirations, qui ne demandent qu'à prendre des ailes et à s'envoler loin, loin, me battre, chanter, conquérir des peuples, enfants à la fois chrétiens, je ne sais pas, mais curé de village. »
Il poussa un long soupir, suivi aussitôt d'un grognement de colère.
Curé de village ou paître des oies le long des routes, c'est tout un. Te souviens-tu du gros abbé Gibori ?
Ah, qui était si drôle ! Interrompit ma grand-mère,
croyant ramener un peu de gaieté dans les yeux de son fils.
Ah, si je m'en souviens, il nous a tant fait rire autrefois.
Tant fait rire, reprit Jules, qui s'irrita davantage.
Ah, c'est bien ça. Un gros porc qui ne racontait jamais que des histoires de caca. C'est ton idéal, hein, de voir les prêtres se barbouiller de leur ordure. Eh bien, sois tranquille. Dans quelques années, je serai comme l'abbé Gibori, moi aussi. Je dirai en imitant le bruit des coliques débordés. Fla, 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 sur les abricots.
Allons, allons, supplia sa mère. Calme-toi, méchant enfant. Et seulement un peu de patience, un peu de courage, et tu seras tout ce que tu voudras aller, avec le dit bien. Mais c'est ta tête qui te perd.
Ah, l'évêque, quand c'est-il l'évêque? Et pourquoi m'a-t-il envoyé ici, l'évêque? D'abord, c'est de ta faute si je suis prêtre.
La pauvre femme tressauta sur sa chaise et fit un geste de protestation étonnée.
« De ma faute ? J'habite alors, Seigneur Jésus, que dis-tu là ? Mais rappelle-toi, rappelle-toi,
Oui, c'est de ta faute, de ta faute. »
Il s'emporta.
« Et ça me dégoûte à la fin d'être prêtre. J'en ai assez de porter cette ridicule robe, de faire le simagré, plus ridicule encore que ma robe, de vivre comme un esclave et comme un castrat. »
Sa voix était devenue sourde, voilée. Les mots s'arrachaient de sa gorge avec des efforts violents.
« Je voudrais Pierre l'ermite, Jules II, Robespierre, Bossuet, Napoléon, Lamartine, enfin, je voudrais me marier. »
Ma pauvre grand-mère poussa un cri et, sans force, contre les larmes qu'elle contenait depuis le début de cette scène, elle sanglota.
« mon Dieu, mais tu es donc le diable !»
« Bien, fit Jules durement, voilà que tu pleures. Oh, je m'en vais, bonsoir. »
Et il sortit en claquant la porte. Après le départ de sa mère, le presbytère lui sembla bien vide. Il s'était accoutumé à la voir près de lui, si douce, si prévenante, si active, rôdant sans cesse dans la maison où elle mettait un peu de la vie sereine, de la clarté apaisante de son âme. Il y avait des moments où cela lui faisait du bien de poser ses yeux sur ce bonnet blanc, blanc comme sont blanches les ailes d'un ange gardien, et sur ce petit châle noir, attendrissant et modeste, sous lequel se cachaient tant de courage simple et tant de bonté. Et maintenant, depuis qu'elle n'était plus là, toujours la même immobilité glacée des choses, toujours le même jardin, toujours le même horizon, toujours le même vicaire aux cheveux blondasses, au visage tavelé, souriant et muet. Quand il se retrouva en tête à tête avec son vicaire, dont le mutisme l'agaçait, et dont il sentait que la conversation l'eût agacé plus encore, le poids de la solitude lui fut si lourd qu'il comprit qu'il ne pourrait point le supporter. Pourtant, il s'y enferma davantage, résolu à ne voir personne, à borner ses relations avec ses confrères aux obligations strictes de son sacerdoce. Il ne les reçut pas à sa table, refusa leurs invitations, ce qui désespérait le vicaire habitué aux agapes joyeuses, où il ne disait jamais un mot et où il prenait un plaisir énorme et silencieux. Quant aux conférences, il négligea de s'y montrer et trouva des excuses dédaigneuses pour qu'elles n'eussent pas lieu chez lui. Une fois que le curé doyen lui reprochait cette abstention, Jules répondit: « Oh, je paie ma cotisation, et je vous laisse ma part du dîner. Que désirez-vous encore? Je n'ai point le goût ni l'estomac de ces petites pocharderies canoniques. Quand j'ai des saletés à faire, je les fais tout seul et je me cache. » Au fond, l'important était qu'il payât la cotisation. Il fut convenu à l'un de ces dîners qu'on le laisserait tranquille. Il est si aimable. Oh, oh, c'est un ours mal léché. Un ours, dit un bâton mère de Dieu. Cette plaisanterie obtint un succès si colossal qu'on appela plus Jules dans les presbytères que le curé mère de Dieu. Tel il avait été à l'évêché, tel il fut dans sa paroisse, qu'il ne tarda pas à désorganiser de compte en comble. Pour vaincre l'ennui, il s'amusa à révoquer les chantres, le bedeau, le suisse, le sacristain. Jusqu'aux enfants de chœur, il renouvela tout le personnel de l'église, bouleversa le conseil de fabrique par un accaparement abusif de l'autorité et se mit en lutte ouverte, acharnée, contre le maire et le conseil municipal. Bientôt, en haine du curé, l'esprit d'irréligion souffla sur ce petit coin de terre
autrefois si tranquille et si soumis. Et l'on vit, ce qui ne s'était jamais vu encore, un enterrement civil. Le dimanche, aux heures des offices, l'église resta presque vide de fidèles, à l'exception de quelques dévotes obstinés qui ne comptaient pas, faisant pour ainsi dire partie du mobilier ecclésiastique. Et les choses en vinrent à une telle intensité d'excitation que le maire et le curé s'étaient rencontrés une matinée derrière le cimetière, dans un chemin, se prirent de querelles et se battirent comme des portefaix. Dans une dénonciation anonyme adressée à l'évêque, on lisait ceci. « Enfin, monseigneur, depuis l'arrivée du curé d'Hervel, le nombre des cabarets, qui n'était que de 18 sur une population de 1053 âmes, s'est accru dans une proportion scandaleuse. Il est actuellement de 46. C'est la ruine morale de la paroisse. » Ces distractions ne suffisaient pas à remplir les journées de Jules. Tout en continuant d'exaspérer ses paroissiens par d'incessantes vexations, il eut alors des fantaisies, des caprices, auxquels il se livrait avec emportement, et qui ne duraient pas, et qui remplaçaient d'autres caprices et d'autres fantaisies vite abandonnées. Tour à tour, il cultiva les tulipes, apprit l'anglais, éleva des faisans, collectionna des minéraux, commença un ouvrage de philosophie religieuse qui devait régénérer le monde. Les semences de vie, œuvre très vague et très symbolique, où il faisait parler des Christs athées babyloniens dans des paysages de rêve. La tête en feu, il traçait des gestes énormes qui résumaient des pensées, des décors grandioses, disant tout à coup « Ça et là, des pylônes, et Jésus s'avance parmi les foules. Une femme vient vers lui, deux aveugles, avec des pieds en forme de griffes. Qui donc es-tu ? Je suis la justice humaine. » Jésus la repousse et lui dit « Tu ne jugeras point. » Une autre femme apparaît souriante avec un corps et des regards d'enfant. « Qui donc es-tu ? Je suis la folie. » Et Jésus l'embrasse. « Va, ma fille, et sois maternelle. » Les difficultés de composition l'arrêtèrent dès le second chapitre, et il se consacra à un livre de polémique, « Le recrutement du clergé » ou « La réforme de l'enseignement religieux », dont il n'écrivit que quelques feuillets, faute de documents, ce qui l'amena à se passionner de nouveau pour sa bibliothèque. Ensuite, il se jeta dans le spiritisme. Le soir, entre le vicaire silencieux et troublé et le jardinier ahuri et sommeillant, il s'asseyait autour d'un guéridon et jusqu'à minuit, il évoquait Salomon, Caligula, Isabeau de Bavière, les rois formidables de Ninive, la Sulamite et Marie-Antoinette. Puis redescendant les hauteurs des spéculations magiques, un jour il s'installa à la cuisine. Il surveillait les fricots, goûtait aux sauces, inventait des plats compliqués, mangeait avec des goiffreries insatiables qui donnèrent à sa chair des réveils terribles, douloureux, épuisants. Pendant 10 années, il vécut ainsi. Effaré, haletant, sans une minute de répit contre les autres et contre lui-même, toujours ballotté du plus grossier désir au rêve le plus inexhaussable, précipité des cimes que hantent les aigles seuls jusque dans l'auge immonde où les porcs se vautrent. Cette période de sa vie fut une longue torture, et je m'étonne encore aujourd'hui qu'il n'ait pas tenté de s'y arracher par le suicide. Il avait dit à sa mère, et il se disait souvent, « Je sens qu'il y a en moi des choses qui m'étouffent et qui ne peuvent sortir. »
et je me suis demandé quelquefois quel homme aurait été mon oncle. Si ce bouillonnement de lave, lave de pensée, lave de passion, dont tout son être était dévoré, avait pu trouver une issue à son expansion. Peut-être un grand saint, peut-être un grand artiste, peut-être un grand criminel. Loin d'être engourdi par le narcotique de l'habitude, sa nature s'exaspéra de jour en jour. La colère prit chez lui une forme de véritable folie furieuse. C'était un avant-spectacle de voir cet homme éloquent en arriver à ne pouvoir plus achever une phrase et à ne se servir que de mots grossiers, vite noyés dans une broue d'épileptique. Son opinion sur les hommes, il la résumait dans ce bruit, pareil à un éternuement. « Imbécile !» Quand on lui parlait des prêtres, il semblait que ses yeux, empourprés par un subit afflux de sang, voulussent s'élancer hors de leurs orbites. Des imbéciles, des imbéciles! Il se négligea et devint d'une saleté répugnante. On le rencontrait avec des soutanes sordides et trouées, des sabots dont les brides claquaient, des barbes de 8 jours. Sur son passage, aucun ne se découvrait, et les petits enfants effrayés à son approche s'enfuyaient en poussant des cris. Parfois aussi, on eût pu le voir qui marchait à travers les champs, en quelque sorte soulevé de terre par l'envolée de ses grands gestes. Il pensait à l'idée interrompue des semences de vie. Ça et là, des océans, au-dessus le ciel, et Jésus, debout entre les flots immobiles du ciel et les flots tourmentés des mers. Il dit à l'espace, tu gonfleras les orgues où chante l'âme du poète. Il dit à l'infini, tu habiteras le regard des femmes, des idiots, des pauvres et des nouveaux-nés. Ce désordre intellectuel, cette désorientation morale, furent aggravés encore par une fièvre typhoïde dont il faillit mourir. Mon père quitta sa clientèle, s'installa au chevet de Jules et le soigna avec un admirable dévouement. Il m'a plus tard raconté ce détail particulier. Le délire eut chez l'abbé un caractère érotique, si scandalisant que la sœur qui le veillait partit. Dans ses accès de fièvre, il prononçait des mots épouvantables et se livrait à des actes d'une effarouchante inconvenance. Il fallut lui attacher les mains. La convalescence fut longue, contrariée par le tempérament irritable du malade, qui ne cessait d'injurier mon père. « T'es un imbécile, va-t'en. Mais c'est toi qui me donnes la fièvre. Est-ce que tu sais quelque chose, toi, t'es un imbécile ?» Il ne se releva que pour enterrer ma pauvre grand-mère, qu'on trouva morte un matin dans son lit, foudroyée par la rupture d'un anévrisme. Jules pleura sincèrement. « C'est le chagrin qui l'a tué !» s'écriait-il. « Je suis un misérable, elle si bonne, si sainte, si sacrée, je l'ai tuée. » Avec mon père et ma mère, il veilla à la morte, voulut l'ensevelir lui-même. « Non, tu es faible encore, » disait mon père, « repose-toi, tu te feras du mal. » Mais Jules répétait, « Non, non, je l'ai tuée, c'est moi. » Pourquoi m'as-tu guéri? Et pourquoi est-elle morte, elle? Au cimetière, quand la fosse fut comblée, et tandis que la foule défilait, se disputant l'aspergeoire, il s'agenouilla sur la terre humide, se frappant la poitrine avec des gestes extravagants.
« Messieurs, gémissait-il, mesdames, je l'ai tué, pardon, pardon !»
On dut l'emporter défaillant. Ce soir-là, il n'ennuie point qu'on lui parlât du testament qu'avait laissé ma grand-mère et dans lequel elle faisait le partage de sa fortune entre ses deux fils.
« Oh, quoi ne me dise rien de cela, je ne veux pas d'argent, je donne tout aux pauvres. »
Mais le lendemain, ayant pris connaissance du testament, il oublia sa douleur sans choléra.
« Ah, mais non, mais non, mais non, j'accepte pas, je suis volé, je plaiderai. »
Plus tard, il se montra d'une âpreté farouche dans le partage du mobilier, menaça d'envoyer l'huissier à mon père pour un torchon, pour une casserole. Enfin, les affaires réglées et mises en possession de l'héritage, il vendit tout ce qu'il possédait et partit pour Paris. Durant 6 ans, il ne donna aucun signe de vie. Était-il mort ou vivant ? Que faisait-il ? Mon père tenta, mais vainement, de recueillir quelques renseignements. On apprit que Jules avait abandonné sa cure sans autorisation, et ce fut tout. Lorsque M. Bizieux, un marchand de nouveautés de Vientey, allait à Paris pour faire ses achats, mon père lui recommandait de s'informer, de voir, de regarder dans les rues. Qui sait, un hasard. M. Bizieux revenait.
« Oh, j'en ai pourtant vu du monde, c'est pas l'embarras, mais point de M. l'abbé. »
Une fois rue Gonetta, il avait croisé quelqu'un qui lui ressemblait diablement. Ben, ce n'était pas M. l'abbé. Une autre fois, dans un café... « Oh, dans un café, disait ma mère, ça doit être lui. » Alors mon père crut avoir trouvé un moyen. Il écrivit des lettres avec cette suscription « À monsieur l'archevêque de Paris, pour remettre à monsieur l'abbé Jules d'Hervel, curé de Randonnet, Paris. » Les lettres restèrent sans réponse. Les jours s'écoulaient, les mois, les années. Et gardant malgré tout un fond de tendresse pour ce mauvais frère qu'il avait sauvé de la mort, mon père se demandait de temps en temps, intrigué et tout triste, « Mais que peut-il fabriquer à Paris ?»